Bonjour à tous, concile de Chalcédoine, c'est notre cinquième mission, le quatrième concile œcuménique. Donc il s'est déroulé en 451, soit moins de 16 ans après le concile d'Éphèse, que nous avons un peu étudié la dernière fois, qui était censé clôturer les débats sur les questions christologiques. Comme nous l'avons déjà vu, la controverse entre les écoles théologiques d'Antioche et d'Alexandrie, qui était à l'origine justement de ce premier concile christologique, a tourné autour des questions de définition et de vocabulaire, beaucoup autour de ces questions. Mais il faut rappeler encore une fois, on l'a déjà vu la dernière fois, il nous est impossible d'échanger sans les mots, il nous est même impossible de penser sans les mots, d'où l'importance de leur juste utilisation et d'une juste définition. C'est à quoi se sont attachés les différents conciles, on l'a vu. Lors de notre précédente émission, on a vu que certaines formules de Saint Cyrille d'Alexandrie, qui avait été le grand promoteur de la lutte contre le nestorianisme, pouvait avoir un caractère un peu ambigu. Par exemple, de deux, l'union s'est faite, ou une seule nature après l'union. Alors, le terme nature, la traduction par nature, qui est la traduction classique, est un peu ambigu, puisque le terme grec qu'utilise Cyrille, c'est phusis, et phusis peut avoir des acceptions légèrement différentes de nature, il peut avoir un sens actif et un sens passif, qui font qu'effectivement le terme est un peu ambigu. Donc c'est sur ces expressions que Théodoré, l'évêque de Cire, reviendra et rouvrira de fait la discussion. Dans un ouvrage dialogué entre un hérétique et un orthodoxe, qui en fait est lui-même, Théodoré précise sa pensée. Il dit « La nature divine est immuable. L'union des deux natures dans le Christ se fait sans confusion, et la nature divine est impassible. » Face à Théodoré, il y a Eutychès, archimandrite de Constantinople, qui n'est pas un grand féru de théologie, mais qui reste fermement attaché à la lettre même des formules de Cyrille. Et Cyrille, pour sa part, a été rappelé au ciel le 27 juin 444, sans pouvoir justement donner un sens sans équivoque à ces formules. De ce fait, Flavien, le patriarche de Constantinople, réunit d'abord un synode régional en novembre 448, qui entend Eutychès. Celui-ci répète devant l'Assemblée la fameuse formule « une seule nature après l'union ». Et que, je cite, quant à lui, « il n'adore qu'une seule nature, celle de Dieu incarné fait homme ». On le voit, nous sommes au cœur d'une divergence de vocabulaire. Après l'incarnation, une seule phusis ou une seule hypostase, une seule nature ou une seule personne. Après avoir entendu Eutychès, il est condamné, déposé de sa charge et excommunié. Son hérésie sera par la suite appelée monophysisme, c'est-à-dire une seule nature, dans le sens où la nature humaine est réputée avoir cessé d'exister comme telle dans le Christ, étant assumée par sa personne divine de Fils de Dieu. Suite à cette décision, Eutychès, comme Flavien d'ailleurs, en appelle au pape Léon pour trancher leurs différends. Le pape félicite Flavien d'avoir résisté à cette, je cite, « erreur perverse et folle ». Mais l'empereur Théodose II, sous l'influence de la cour, est un ferme soutien d'Eutychès. Il décide de convoquer un concile général pour trancher le débat théologique. La lettre de convocation date du 30 mars 449, pour une ouverture des débats très rapide, le 1er août suivant, le lieu étant déterminé comme Éphèse, site du précédent synode. Le pape Léon Ier, dit Saint Léon le Grand, est également convoqué. Celui-ci, bien informé des enjeux, répond en envoyant trois légats pour le représenter. Il fait également parvenir au patriarche un courrier volumineux présentant la foi toujours enseignée par l'Église sur l'incarnation. Ce document est connu sous le nom de Tome à Flavien. Il précise comment les deux natures opèrent suivant leur modalité propre dans l'unique personne du Christ. Alors ce concile, convoqué un concile, je mets des guillemets, on va voir pourquoi, convoqué par l'empereur, s'ouvre ainsi le 8 août à Éphèse. Il est sévèrement encadré par l'empereur qui donne une instruction pour le moins étrange. Les évêques qui ont condamné Eutychès lors du synode régional de Constantinople ne pourront prendre la parole. On se souvient des conditions assez chaotiques de la précédente réunion d'Éphèse. Les conditions sont ici encore pires. Barsoma, un moine syrien farouche antinestorien, avait amené avec lui près de 1000 moines décidés à faire pression, au plan physique, sur les pères conciliaires. Les légats du pape se voient refuser la lecture de la lettre de Léon Ier destinée aux pères conciliaires. Les représentants de l'empereur simple laïque influent sur les débats. à la lecture des actes du synode de Constantinople, où Eutychias avait été condamné, les évêques se récrient à propos de ceux qui tiennent pour deux natures, et je cite, s'écrient « à mort, que l'on coupe en deux ceux qui divisent le Christ ». Au terme de ces débats houleux, auxquels les légats du pape n'ont pu participer, pas plus que le patriarche de Constantinople lui-même, Eutychias est réhabilité. Mais au moment de condamner Flavien, le tumulte est tel que les représentants de l'empereur font entrer les soldats, l'épée à la main, dans l'assemblée pour ramener le calme. Mais la foule des fidèles et des moines en profite pour pénétrer également dans la basilique. Chacun tente d'échapper à l'arrestation ou au lynchage. Le désordre est total. Flavien mourra peu après ces événements, sans que les historiens aujourd'hui soient sûrs s'il est décédé des suites de ces mésaventures. C'est le pape lui-même qui donnera à ces journées le nom de brigandage. C'est ainsi nommé que cette réunion est entrée dans l'histoire de l'Église, le brigandage d'Éphèse. Un des légats du pape, le diacre Hilaire, parvint à s'échapper et, suivant des routes improbables pour échapper aux hommes de l'empereur, réussit à revenir à Rome. Devenu lui-même évêque de Rome quelques années après, il fera construire une chapelle à Saint-Jean l'Évangéliste, qui lui est apparue pour le guider et à qui il doit d'avoir survécu à ce périlleux voyage. Il rapporte au pape Léon les conditions incroyables dans lesquelles s'est tenue la réunion d'Éphèse. Eusèbe de Dorylée et Théodore de Cyr écrivent pareillement au pape pour lui demander d'intervenir pour restaurer la foi droite. Face à ces événements, le pape envoie à plusieurs reprises des lettres à l'empereur et au clergé de Constantinople pour demander la réunion d'un nouveau concile, sans succès. Théodose reste sur sa position. La situation se débloque avec la mort de l'empereur, le 28 juillet 450, d'une chute de cheval. Le nouvel empereur Martien convoque donc un nouveau concile qui doit se réunir le 1er septembre 451 à Nicée. Mais pour faciliter la présence de l'empereur qui veut éviter de nouveaux désordres et troubles, le concile est transféré à Chalcédoine, ville située à proximité immédiate de Constantinople. Le pape envoie de nouveaux délégats avec une mission bien précise, diriger les débats et s'assurer que le tome à Flavien soit bien à la base des résolutions du concile. Celui-ci débute le 8 octobre 451 avec la présence d'un nombre considérable d'évêques, certains disent plus de 600. La première session permet la réhabilitation de Flavien. Puis, les légats demandent que Dioscore, qui était à la main d'œuvre lors du brigandage d'Éphèse, soit jugé par l'Assemblée. Le procès est l'occasion de passe d'armes entre les évêques de Syrie, qui déclarent avoir signé la condamnation de Flavien sous la menace des épées et des bâtons. Quand les évêques égyptiens dénoncent leur duplicité, s'exclamant qu'un chrétien authentique ne craint pas pour sa vie terrestre. Lors de la deuxième session, l'empereur demande que les pères conciliaires se mettent d'accord sur une formule précisant la foi. Mais les évêques hésitent à modifier la foi de Nicée. Ils craignent d'avoir à choisir entre saint Cyrille et saint Léon. La troisième session est l'occasion de la condamnation de Dioscore, condamnation canoniquement prononcée par les légats du pape. La quatrième session portera encore sur des questions de personnes, mais la cinquième session s'oriente enfin vers une définition dogmatique nouvelle. Un grand nombre des canons de Chalcédoine visent à des questions disciplinaires, on l'a vu, entre autres pour tenter d'éviter les désordres d'août 449 à Éphèse. On insiste de nouveau, c'était déjà une préoccupation à Nicée, sur l'interdiction faite aux clercs de passer d'un diocèse à un autre. Un problème nouveau est également traité par le Concile, c'est celui de la discipline des monastères. On a vu le rôle déstabilisant que certains moines jouèrent lors des deux réunions d'Éphèse. Le développement du monachisme s'accompagnait d'une inclination excessive vers le pneumatisme et le charismatisme, surtout dans des communautés de petite taille regroupant quelques moines. Le concile prescrit que les moines doivent éviter les charges pastorales et se centrer sur la prière et l'ascèse. Toute création de nouveaux monastères est soumise à l'autorisation de l'évêque. Le 28e canon, pour lui, est plus problématique. Il est voté en l'absence des légats pontificaux et rajouté de manière un peu subreptice aux actes du concile. Il prévoit pour les conflits une possibilité d'appel auprès du patriarche de Constantinople, qui vient ainsi concurrencer à la fois l'exarque de la province, en Occident nous dirions archevêque, et le pape de Rome lui-même. On voit ainsi la deuxième étape du parcours qui mènera le siège de Constantinople de simple évêché vers une parité avec Rome qui sera pleinement revendiquée lors du soi-disant concile Intrullo, dont nous parlerons plus tard. Cette décision est d'autant plus malheureuse que c'est bien une raison politique qui en est à l'origine. Cette prééminence n'est en effet pas fondée sur ce qu'on peut appeler le prestige apostolique, ce qui est bien sûr le cas de Rome, dont le premier évêque était Saint-Pierre, mais sur la politique, sur le fait que la ville est le siège du pouvoir impérial. Cette confusion, voire même domination du temporel sur le spirituel, sera, sur le long terme, une faiblesse des églises d'Orient et une des racines du schisme de 1064 entre les églises qui se diront orthodoxes et Rome. Le lendemain, les légats protesteront vivement contre cette innovation contraire aux traditions de l'Église, en particulier au sixième canon du Concile de Nicée, hélas sans succès. On l'a dit, la cinquième session, elle, a traité vraiment la question dogmatique qui était au cœur du Concile. Le 22 octobre 451, le Concile approuve ce qui sera appelé le symbole de Chalcédoine. Il ne s'agit nullement de remplacer le symbole de Nicée, mais d'apporter des précisions sur la question christologique qui était centrale donc dans les deux conciles d'Éphèse et de Chalcédoine. En quelque sorte, une annexe. Je cite les termes. Le Concile s'oppose en effet à ceux qui tentent de diviser le mystère de l'économie en une dualité de fils. Il repousse, loin de l'assemblée des prêtres, ceux qui osent dire « passible la divinité du Fils unique ». Il s'élève contre ceux qui imaginent à propos des deux natures du Christ un mélange ou une confusion. Il chasse ceux qui disent dans leur délire que la forme d'esclave que le Christ a reçue de nous est pour lui céleste ou de quelque autre substance. Et il anathématise ceux qui inventent la fable de deux natures du Seigneur avant l'union et n'en imaginent qu'une seule après l'union. Suivant donc les saints-pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même, parfait en divinité, et le même, parfait en humanité, le même, vraiment Dieu et vraiment homme, avec une âme raisonnable et un corps consubstantiel au Père selon la divinité, et le même, consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même, engendré pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, la différence des natures étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase, un Christ, ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils unique, engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné, et que le symbole des pères nous l'a transmis. Voilà donc l'apport dogmatique essentiel de ce concile. Alors quelles seront les conséquences ? Les conséquences du concile sont de différents ordres. Bon, d'une part, ces décisions sont centrales pour une juste compréhension de l'histoire du salut. C'est parce que la nature humaine elle-même participe de la résurrection que nous sommes sauvés. Je cite l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. « Mais maintenant, le Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Car puisque par un homme est venue la mort, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. » Mais le Concile aura également des conséquences sur la doctrine catholique du gouvernement juste de la cité terrestre. C'est par l'analogie entre les deux natures du Christ sans confusion mais sans séparation, pour reprendre les termes des pères conciliaires, que le pape Gélase pourra affirmer à l'empereur Anastase en 494, soit 40 ans après le concile, je cite, « Il y a deux principes, empereur Auguste, par qui ce monde est gouverné au premier chef, l'auctoritas sacrée des pontifes et la potestas royale. Ce sont donc deux volontés, l'une du domaine spirituel, l'autre du domaine temporel, qui contribuent, suivant leurs modalités propres, au bon gouvernement. L'Église catholique se tient ainsi à l'écart du sécularisme mortifère du monde moderne post-chrétien, comme des différentes théocraties qui émanent de la plupart des autres religions. C'est sur cette base que sera construite la civilisation chrétienne durant le Moyen-Âge. Enfin, une autre conséquence, un nouveau schisme dans le corps de l'Église. Comme le concile qui condamnait le nestorianisme avait conduit à la séparation avec l'Église de Perse, celui condamnant le monophysisme a conduit à la séparation des églises coptes d'Égypte, d'Éthiopie et des églises jacobites de Syrie et de Mésopotamie. De plus, l'église arménienne apostolique, sans adopter les positions de Tichès, ne reconnaît pas le concile de Chalcédoine où on a pu être représenté et s'en tient aux formules de saint Cyrille. Il faut noter que l'effort de réunion des chrétiens, comme suite au concile Vatican II, ces séparations et ces oppositions se sont fortement réduites, comme en témoigne la déclaration commune du pape Paul VI au patriarche Shenouda III le 10 mai 1973, je cite. Nous reconnaissons humblement que nos églises ne sont pas à même de donner un témoignage plus parfait de cette nouvelle vie dans le Christ à cause des divisions existantes qui ont derrière elles des siècles d'histoire difficiles. En effet, depuis l'année 451 après Jésus-Christ, ont surgi des divergences théologiques qui ont été entretenues et aggravées par des facteurs non théologiques. Ces divergences ne peuvent être ignorées. Malgré elles, cependant, nous nous découvrons comme des églises ayant un héritage commun et nous nous efforçons avec détermination et confiance dans le Seigneur de parvenir à la plénitude et à la perfection de cette unité qui est son don. Donc on le voit, une volonté affirmée de retrouver l'unité. Il existe d'autres déclarations avec des contenus similaires qui ont été publiées avec d'autres églises orientales. Mais subsiste, et là on peut se poser la question de manière concrète hein, sur les pratiques d'aujourd'hui, la question des sacrements. Comment peuvent participer des catholiques qui seraient en voyage dans ces contrées, ou dans le Moyen-Orient, ou au contraire, des gens qui seraient exilés de ces contrées par rapport à l'Église catholique? Alors c'est le Concile Vatican II qui a retenu les dispositions suivantes. Donc par rapport aux églises séparées, ou monophysites, ou nestoriennes. Je cite. « En ce qui concerne les frères orientaux, la pratique pastorale montre qu'on peut et qu'on doit prendre en considération les différentes circonstances individuelles ou des personnes où ni l'unité de l'Église n'est lésée, ni n'existe des dangers à éviter, mais où la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constitue un besoin impérieux. C'est pourquoi l'Église catholique, en raison des circonstances de temps, de lieu et de personnes, a souvent adopté une façon d'agir moins rigoureuse, offrant à tous les moyens de salut et les témoignages de la charité entre chrétiens par la participation aux sacrements et autres célébrations et choses sacrées. En considération de cela, pour que par une sentence trop sévère nous ne soyons pas un obstacle pour ceux qui reçoivent le salut, et afin de promouvoir de plus en plus l'union avec les églises orientales séparées de nous, le Concile a établi la manière d'agir suivante. Les principes rappelés restent posés. On peut conférer aux orientaux qui, en toute bonne foi, sont séparés de l'Église catholique les sacrements de pénitence, d'eucharistie, d'onction des malades, s'ils les demandent d'eux-mêmes et sont bien disposés. De plus, il permet également aux catholiques de demander ces mêmes sacrements aux ministres non catholiques dans l'Église desquels les sacrements sont valides, chaque fois que la nécessité ou une véritable utilité spirituelle le demande et qu'il y est physiquement ou moralement impossible de s'adresser à un prêtre catholique. En outre, ces mêmes principes restant posés, la communicatio in sacris entre catholiques et frères orientaux séparés dans les célébrations, les choses et les lieux sacrés est permise pour une juste cause. En fait, voilà un chemin pour amoindrir les divisions qui sont nées de ces différents conciles. Sont donc, comme on l'a vu, d'une grande importance, parce que ce soit le concile d'Éphèse ou le concile de Chalcédoine que nous avons étudié, ont produit une division assez importante dans la chrétienté d'Orient. Et c'est cette situation que les envahisseurs musulmans vont trouver quand ils vont occuper le Proche-Orient, et qu'ils vont donc trouver trois églises concurrentes, en quelque sorte, où les relations à cette époque-là sont assez tendues, comme on l'a vu. On parle de couper en deux ce qui divise le Christ. Bon, on n'était pas toujours à des extrémités physiques comme de ce type-là, mais en tout cas, on a été à des situations extrêmement tendues entre les différentes églises.
À bientôt, Philippe, merci.